Les vieux, il faut les recharger. Vous rendez compte, les yeux, les oreilles, la bouche, voilà, tout. Oui, je voulais remercier Bernard pour hier. J'ai vécu, et sans doute vous aussi, mais moi j'ai vécu des moments un peu particuliers, des moments très forts, parce que ça m'a ramené aussi à mon jubilé qui est passé déjà depuis quelques années. Et donc, c'est vrai que ça a remué beaucoup de choses chez moi, quoi. Et donc, surtout, j'ai pu apprendre au cours de ce qu'on a pu vivre ensemble, eh bien, un parcours un petit peu similaire. Sans doute, il a vécu des choses autres que j'ai vécues, mais qui se rapprochent beaucoup, quoi. Et donc, j'ai été particulièrement sensible à ce qui nous a été apporté et je voudrais l'en remercier parce qu'il fallait aussi beaucoup de courage pour dire ce qu'il a dit hier. Pour moi, même si... Et je pense qu'il n'a pas tout dit. Donc, voilà. Donc, je le bénis, ainsi que son épouse Danielle et puis toute sa famille. Bien, soyez bénis et puis continuez dans la voie que Dieu vous a... dans laquelle il vous dirige et il vous bénisse encore. Ainsi que cette communauté. Que Dieu soit béni. Voilà, nous avions l'occasion de parler au mois d'août des difficultés que les disciples de Jésus avaient rencontrées. Et c'est vrai que la suite de ce message, eh bien, fait partie d'une période de ma vie où j'ai eu, des questionnements. Quelques difficultés à me positionner, quelques rencontres. Et puis, c'était un petit peu difficile. J'ai été dans une période un peu de découragement. Oui, ça arrive même au pasteur d'être des fois découragé. Ça, c'est comme ça. Donc, j'étais en phase de questionnement. Et c'est vrai que je me suis fait du bien à la fois où vous avez eu ce frère... qui est venu pour nous parler d'aller plus en profondeur dans la prière. Et c'était quelque chose qui m'a aussi beaucoup interpellé, qui m'a fait énormément de bien. Et donc à la suite de ça, je me suis mis à lire le chapitre 9 de Luc. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de choses. Et j'ai appris aussi beaucoup de choses, parce qu'on apprend toujours beaucoup de choses, même si ça fait 10 fois ou 100 fois qu'on a lu la Bible, on y découvre toujours des pépites. Et cela, c'est ce qui est vraiment intéressant, parce que c'est un livre inépuisable, plein de ressources pour celui qui veut creuser, approfondir. Et en lisant ce chapitre 9, je me suis aperçu que les disciples ont rencontré des difficultés, ils ont fait des erreurs. Et je vous parlais au mois d'août, la première, leur difficulté, c'était leur manque de vision. Voilà, manque de vision. Alors on ne va pas relire tout le texte, vous pourrez lire le chapitre 9. Hein. Et donc, où Jésus, dans... ces versets 11 à 17, eh bien, je vais résumer par quelques mots. Et il dit « Donnez-leur à manger ». Jésus est en train de les charger d'un problème qui était au-dessus de leur capacité. Des fois, Dieu nous demande des choses et on se dit « Mais je ne suis pas capable de faire cela hein ». Choisis quelqu'un d'autre. Mais si Dieu nous confie quelque chose, c'est à nous et ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et je vous avais dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qui nous dépassent. Et en fin de compte, être disciple, c'est obéir à Dieu. Et les disciples avaient perdu la vision de la réalité divine. Et il nous arrive des fois que l'on perde cette réalité-là et que nous sommes un petit peu à côté de la plaque. Deuxième point que nous avons vu, je fais un résumé court, c'était le manque de consécration qu'on trouve au verset 23 à 27 de ce même chapitre. Oui, s'engager pour Dieu, c'est pas toujours simple. C'est une décision qu'on prend. Et on voit qu'à travers les disciples, eh bien, il y a un prix à payer pour vivre en disciple. Le prix de la consécration, le prix de la mission. Parce que la vie chrétienne, c'est avant tout un choix. C'est un engagement libre. Libre dans la pensée, libre dans la conscience, libre dans la volonté. Mais c'est aussi l'acceptation de ce prix à payer. C'est Jésus qui avait dit, « Celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. » Je donnais ce témoignage de Jim Elliot, le missionnaire américain qui avait été assassiné en 1955 par les Indiens Oka en Amérique du Sud, a dit, « Il n'est pas fou celui qui abandonne ce qu'il ne peut conserver pour obtenir ce qu'il ne pourra perdre. » Oui. Bernard nous l'a rappelé hier dans son témoignage. Oui, dans la vie chrétienne, nous souffrons. Il y a des souffrances. Il y a des douleurs. Mais nous pouvons souffrir aussi d'autres choses, peut-être à cause de notre manque de consécration. Sans doute étant trop attachés aux choses de ce monde, qui certes pour beaucoup sont légitimes, mais combien entravent notre marche d'enfant de Dieu. Et j'ai envie de dire, le manque de vision, c'est aussi un manque de consécration. Quand on ne sait pas où on va, c'est difficile de s'engager. Et puis, les disciples ont été aussi en face de quelque chose, au verset 37 à 42, bien un manque de perspective. Parce que quand on n'a pas un manque de vision et un manque d'engagement, eh bien, on ne sait pas trop quoi faire. Et là, on voit que Jésus, à un moment donné, prend les trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. Sans doute, ce fut un honneur pour eux d'être remarqués par Jésus et d'être un petit peu comme de ceux qui sont mis à part. Et là, ils vivent un événement extraordinaire qui nous est relaté ici, représente un épisode important de la vie de Jésus, puisque ça va être une étape qui le conduit vers la passion et en même temps à sa résurrection. Alors, c'était formidable pour les disciples parce que dans cet événement où Jésus est rassemble ses trois disciples, il voit des choses extraordinaires, il voit Moïse, il voit Élie, qui n'aurait pas eu envie de voir Moïse et Élie. Quelle faveur extraordinaire pour eux. Quelle joie aussi. Quelle surprise. Et c'est vrai que dans notre vie chrétienne, on peut avoir ces moments extraordinaires qui sont, j'allais dire, des moments si particuliers que quelques-uns vivent, pas les autres. Vous pensez que les neuf autres étaient à l'extérieur de cela. Pourquoi eux et pas les autres? Et pourtant, là, dans ce moment si particulier, Ils entendent cette voix, celui-ci est mon fils élu. Je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps d'entendre des voix. Il y en a qui entendent des voix, mais ce n'est pas forcément Dieu qui parle. Souvent, il y en a qui disent « Ah, Dieu m'a dit !» Ah, bien de la chance. Moi, il ne me dit pas toujours tout, moi. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où il nous parle. Et Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et qu'est-ce qu'il nous a dit et qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Écoutez-le. Écoutez-le. Oui. J'ai envie de dire ce matin, et à nous, et à moi, quand j'ai reçu cela, je n'ai pas besoin de, j'allais dire en fait, d'Élie et de Moïse. Je n'ai pas besoin de la présence de ces hommes si extraordinaires que j'aurais bien aimé connaître, approcher. Mais ça, c'était dans une autre époque. Oui. D'entendre Moïse dire un certain nombre de choses, mais il le disait à ceux qui étaient là, pas à moi. Élie, la même chose. Alors, je me suis dit, en fait, c'est pas tellement eux qu'il faut écouter, c'est plutôt le Seigneur. C'est plutôt sa parole. Écoutez-le. Écoutez-le. Il a des choses à nous dire. Il a des choses à te dire ce matin. Nous avons besoin, et comme les disciples avaient besoin, d'écouter le Seigneur. Et écouter le Seigneur, c'est écouter sa parole, c'est écouter la parole de Dieu, c'est écouter l'enseignement de Jésus. Pierre l'avait bien compris. Oui, mes frères et sœurs, c'est cela qui importe pour nous. Oui, ce message, bien entendu, m'a interpellé, moi, en lisant ce chapitre 9 de Luc, et de voir combien les disciples, eh bien, ce sont des hommes comme vous et moi, de la même nature, fait du, j'allais dire, du même bois. Oui. Et où Dieu, dans ce chapitre, me rappelle, donnez-leur vous-même à manger. Vous entendez des choses et j'entends des choses, ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est aussi pour les autres. Et là, en allant plus loin du chapitre du verset 37 à 42, eh bien, je m'aperçois aussi que là, les disciples ont un petit problème. C'est le manque de puissance. Dans ce premier récit, nous nous trouvons là, et Bernard en a parlé hier, c'est d'être en face de l'échec. J'ai bien entendu ce qu'il a dit quand il priait pour ce jeune homme, je crois. Et il avait la certitude que Dieu allait le guérir, que Dieu allait le sauver. Et je crois, si ma mémoire ne fait pas encore défaut, 8 jours après, il est décédé. Ça nous arrive aussi dans le ministère, ça. Nous sommes persuadés que nous avons reçu cette puissance pour guérir, pour délivrer, pour sauver, pour faire des miracles. Waouh ! Dieu m'a investi de cela. Et pourtant, les disciples, ils sont là devant un cas.
ils n'ont pas pu guérir, ils n'ont pas pu délivrer. Les disciples, ils croyaient en eux. Ils croyaient ce qu'ils avaient reçu. Et cela, on ne peut pas le nier, on a reçu de Dieu. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Waouh ! Tu l'as fait ? Je l'ai fait, d'autres l'ont fait. Est-ce que tous ont été guéris ? Non. Alors, est-ce un manque de foi? Je n'ai pas eu suffisamment de foi quand j'ai prié pour des malades. Quand j'ai prié pour la délivrance de démons. N'avais-je pas de puissance? Ne croyais-je pas encore suffisamment? Alors pourquoi? Pourquoi ce manque de puissance? Et moi j'ai l'impression que les disciples sont tombés dans un piège. Au piège classique de penser que c'était eux qui possédaient la puissance. C'est eux qui étaient la puissance. Et Jésus d'ailleurs va leur reprocher sévèrement leur manque de foi. Et moi je suis étonné de voir la dureté du reproche que Jésus va leur faire. Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je ? Non, c'est pas Dieu. Je suis étonné. Imaginez que votre pasteur vous dise ça. Race incrédule et perverse. Il veut dire, non mais, il est barjot, hein. Il déraille un petit peu. C'est le Seigneur qui est en train de leur dire. Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Je me suis posé la question, mais pourquoi le Seigneur est si dur? Bien entendu, hein, chacun peut se poser la question. Et j'ai envie de répondre, sans doute parce que les disciples ont oublié l'essentiel. Ils se croyaient forts, ils se croyaient tout-puissants. Il suffisait de prier, plaf, et Dieu agit. Il suffisait d'imposer les mains, et Dieu agit. Oui. Mais ils étaient tellement imbus. J'ai envie de dire orgueilleux de ce qu'ils avaient reçu de Dieu. Parce que la puissance, c'était pas eux. La puissance, c'est Dieu. Celui qui guérit, c'est Dieu. Je ne suis pas guérisseur. C'est Dieu. Et nous sommes que les canaux que Dieu veut bien utiliser. Et ça, c'est quelque chose d'important. Bernard, il disait, des fois on a tendance à se prendre le melon. Chez nous, les Vendéens, ils disent, des fois on se prend le chou. C'est ça. Quand vous avez de la réussite, quand vous priez, et puis que vous voyez que des hommes, des femmes, des jeunes gens, des enfants sont guéris. Waouh, quelle joie. Dieu est avec moi, je suis fort, invincible. Oui. Oui. Et c'est pour ça que Jésus va les reprendre sévèrement. Et qu'il leur dit, race incrédule et pervers, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Alors, là encore, question. Si les disciples ont manqué de puissance dans cet épisode, c'est sans doute tout simplement parce qu'ils ont oublié Dieu. D'ailleurs, mais est-ce que c'est possible d'oublier Dieu? On est pasteur, on est chrétien, on ne peut pas oublier Dieu. Non, mais ils l'avaient peut-être relégué un petit peu de côté pour se mettre un petit peu en avant. Alors qu'ils auraient dû pousser le Seigneur un petit peu en avant. Ouais, c'est peut-être ça. Ils s'étaient pris un petit peu pour des vedettes. Mais la vedette, c'est Dieu. La vedette, c'est Jésus. La vedette, c'est l'Esprit qui se manifeste. Ouais, c'est cela. Et puis, faut pas oublier que c'est quand même Jésus, c'est quand même lui. Lui seul peut changer la vie d'un homme, d'une femme. C'est pas nous. Moi, je peux rien pour vous. Si vous venez me voir pour que je prie pour vous, je vais prier pour vous, parce que je vais m'associer avec vous. Si deux ou trois s'assemblent pour prier, Dieu est avec eux, ils prient. Et Dieu manifeste sa grâce. Mais c'est Dieu qui va le faire. C'est Dieu qui veut le faire pour chacun de vous. Et il sait ce dont vous avez besoin particulièrement. Bien entendu, il se révèle, il nous donne sa pensée, mais c'est Dieu qui fait avant tout. C'est Dieu qui change, c'est Dieu qui transforme, c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui délivre. Et puis, en retournant dans Matthieu pour ce même épisode, eh bien, Jésus va rapporter quelque chose d'intéressant. Parce qu'il y a tout ce qu'on voit, vous savez, dans les manifestations, dans les églises, quand on prie, mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas. Et Jésus nous donne un indice. Quand il dit « cette sorte de démon ne sort que par… » Vous avez appris votre leçon. Mais ce n'est pas le tout d'apprendre la leçon. C'est de la mettre en pratique. Et s'il y a une chose que j'ai appris… Et pourtant, j'avais déjà quelques années de conversion, et pourtant, je priais, et je voyais des hommes, des femmes, qui étaient guéris et délivrés. C'est quand j'ai été aux côtés de Lucien Clerc, il y a 19 ans de ça, il m'a appris à prier. J'avais déjà un certain nombre d'années. Pourtant, je priais. Pourtant, je jeûnais. Mais avec Lucien Clerc, j'ai appris et apprécié à passer du temps avec Jésus. Vous savez, pour connaître Jésus, il faut passer du temps avec lui. Il faut entrer dans son intimité. Il faut être dans sa présence. Il faut être dégagé. Je ne sais pas, à Bernard, j'apprendrai ça. Et moi, j'ai appris ça, j'avais déjà un certain nombre d'années, un certain nombre d'expériences. Et ça a changé ma vie, pas forcément extérieurement, mais ma relation avec Dieu. Ça a tout changé. Et je sais ce que Dieu peut faire et veut faire. C'est pas facile. Bernard a parlé hier des tentations, des luttes, des combats qu'on peut avoir. Vivre l'intimité avec Dieu, je l'ai dit tout au début, c'est un engagement. C'est une consécration. Mais qu'est-ce qu'on veut? On a chanté des beaux cantiques ce matin, mais est-ce que vous avez lu les textes? Vous les avez simplement répétés comme cela, pour chanter. Ils disent des choses.
Je veux vivre des choses plus fortes, je veux que le Saint-Esprit agisse, je veux qu'il me transforme, je veux tout, hein, tout à toi. Ça veut dire quoi ça, tout à toi? Ah oui. Être tout à Jésus. Bon, ça c'est pas possible, c'est irréalisable ça. Et pourtant, vous le chantez. Des fois, je me dis, mais est-ce que nous, chrétiens, nous comprenons ce que nous chantons? Et des fois, je n'ai pas envie de chanter les chants parce que je ne suis pas en accord avec ça. Même si je trouve que le texte est beau, même si la mélodie, elle est belle, ah oui, j'ai envie de me laisser prendre dedans, mais... Je me dis, je suis un peu déphasé avec ça, moi. Parce que c'est pas ce que je vis. Je voudrais. C'est ça qui me paraît important pour moi. Être en accord avec ce que je crois, ce que je vis, ce que je chante. Alors, c'est vrai que ces deux attitudes, quand Jésus le souligne dans Matthieu, c'est étonnant, j'aurais pu croire que ça aurait été dans les quatre évangiles, non, et c'est dans Matthieu seulement, hein, le jeûne et la prière, c'est l'illustration exacte de notre dépendance à Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que vous pouvez faire au nom de Dieu, c'est Dieu qui le fait. Bon. Sommes-nous conscients de cela? Oui. Oui. Voilà. Le manque de puissance, on le trouve là, dans cette attitude. Prier, jeûner, ce ne sont pas des moyens pour nous rendre plus aptes pour agir pour Dieu, non. C'est l'affirmation que je reçois tout de lui et que lui seul peut agir. Ne mettons pas notre foi dans l'homme, mais mettons notre foi en Dieu. Parce que toutes les fois que nous allons mettre, j'allais dire, notre foi dans l'homme, et que nous allons regarder l'homme, et que nous allons courir après l'homme, parce que dans telle conférence, dans telle réunion, alors, il a un ministère de prophète, de guérison et tout cela. Oui, je ne rejette pas tout cela. Mais qu'est-ce que vous venez voir? Vous rappelez? Avec Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous êtes venu voir? Vous êtes venu à un spectacle? Vous voulez voir une démonstration de la puissance? Mais c'est Dieu qui fait. L'homme n'est que le canal, l'instrument que Dieu utilise. Et c'est à Dieu qu'il faut rendre la gloire, non pas à l'homme. Il n'est rien. Il n'a fait qu'obéir et donner ce qu'il a reçu. Oui, la gloire en revient à Dieu quand il y a un miracle, quand il y a une guérison, lorsqu'il y a une conversion. Oui, c'est cela. Aussi, la prière peut être individuelle, communautaire. Elle n'est pas une option facultative dans notre vie de chrétien. J'ai envie de dire, c'est aussi vital que la respiration. Alors comprenons, ce matin, que Dieu, certes, veut manifester sa puissance, mais à travers nous. Soyons ce canal. Et puis, les disciples, on va aller au cinquième point. Il nous dit au verset 46 à 48, « Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça auprès de lui et leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui sera grand. » Wow! Merveilleux, cela. Là, ils ont un problème, les disciples. Ils ont vraiment un problème. J'ai l'impression que parfois, ils nous ressemblent beaucoup, ou c'est nous qui leur, c'est nous qui leur ressemblons beaucoup. Aussitôt qu'il se forme un groupe, il y a toujours quelqu'un pour se présenter comme le chef. Qui est le plus grand? Voilà. Et il s'ensuit comme une dispute entre eux. Et j'imagine assez facilement les arguments. Parmi les trois qui ont été appelés par le Seigneur, ils ont dû sans doute cette occasion de se dire qu'ils étaient les mieux placés pour être les chefs. Et comme je le disais tout à l'heure, les neuf hôtes, eux, n'oublions pas que quand Jésus, au début du chapitre, il les a envoyés pour aller guérir et ils sont revenus avec un échec. Wow. Ça refroidit un petit peu quelque part, quoi. Vous savez que l'un des bonheurs, des critères du bonheur, c'est la bonne image de soi. Et on est là. L'image de soi. Vous savez, aujourd'hui, tout passe par l'image. Hein? C'est pour ça que les médias ont tellement de force, de puissance. Tout passe par l'image. C'est incontournable. L'image de soi. Mais le texte nous dit que Jésus, qui connaissait leurs pensées, leur répond en prenant un enfant, le présentant comme un modèle. Bon, comment pouvons-nous, adultes, prendre un enfant pour modèle? On peut, comme la chanson le dit, prendre un enfant par la main, oui, sans doute. Mais des fois, je me demande qui c'est qui conduit l'autre. Du temps de Jésus, il faut se rappeler qu'un enfant n'était pas une personne considérée. Il fallait qu'il attende l'âge adulte. L'enfant était un être dépendant, soumis à ses parents. À cette époque, aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. Oui, c'est cette image de la dépendance et de l'humilité. Voilà le modèle que Jésus veut nous montrer. Parce que l'autosuffisance, et on vient là à un mot, un gros mot, Bernard en a parlé hier, l'orgueil. L'orgueil, oui. Sont, j'allais dire, des racines d'un mal plus grave qui peut impacter notre unité. On voit bien quand quelqu'un veut sortir du lot, quand quelqu'un veut prendre le leadership, alors qu'il n'y est pas invité, ça crée des dégâts. ça crée du trouble. En un mot, ça crée la division. Oui. Quelle relation nous avons avec le Seigneur? Car malheureusement, il faut le confesser. Ce manque d'unité qui crée la division. Moi, je suis d'un tel, moi, c'est un tel, moi, j'ai reçu ceci, moi, le Seigneur me parle plus qu'à toi, hein, moi, j'ai reçu le Saint-Esprit, moi, et pas toi, et etc., etc., j'en passe des meilleurs. Eh oui, ce manque d'unité dans l'Église, voilà. Au lieu d'être mis en relation avec le Seigneur, c'est les limites humaines qui sont présentées ici. Jésus nous exhorte à cet épisode à réaliser que comme enfant de Dieu, tout ce que j'ai, tout ce que je sais, tout ce que nous avons, tout ce que nous savons, c'est de lui que nous avons reçu. Même mes capacités, même mes talents, quels qu'ils soient d'ailleurs, nous ne pouvons pas nous enorgueillir de ce que nous avons. Non, je ne suis pas le plus beau, non, je ne suis pas le meilleur. Mais ça, vous le saviez déjà. Oui. Oui, mes frères et sœurs, l'orgueil, c'est un péché qui a une caractéristique, c'est qu'on le voit très facilement chez les autres, mais on le voit très peu chez nous. Et on le chasse d'un petit revers de main, en disant, non, c'est rien. Oui. Mais nous le savons. Dieu nous invite à l'humilité parce qu'il nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà le témoignage. Et puis on va aller un peu plus loin dans le chapitre, verset 49-50, c'est le sixième point. Il nous est dit, Jean prit la parole et dit, « Maître, « nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. » Nouveau problème. Là, c'est les disciples qui se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls dépositaires de l'Évangile. Eh oui, ils ont rencontré un problème. Ils ont échoué à délivrer un jeune homme possédé. Et voilà un homme dont on ne sait pas le nom, on ne sait pas d'où il vient, qui il est, qui ne suit pas Jésus, et qui, lui, va le délivrer. Waouh! Ça, c'est inacceptable pour les disciples. Ils ne peuvent pas accepter ça. Je me souviens, j'étais dans un mouvement, il y a quelques années de cela, et c'est vrai que j'étais un petit peu formaté, et on était les meilleurs, les plus beaux. Oui, oui, voilà. On était les meilleurs dans tout ce qu'on faisait. Et donc, c'était extraordinaire. Les autres, pour moi, ils étaient à côté de la plaque, quoi. Hein? Donc, on avait le meilleur enseignement, on avait tout cela. Alors, c'est vrai qu'on voyait beaucoup de conversions, on voyait beaucoup de guérisons. Voilà, on était un peu dans notre bulle. Et j'étais dans cette bulle-là. Eh oui. Et s'il y avait le malheur d'avoir quelqu'un qui venait piétiner sur nos plates-bandes, alors, oh là là, on faisait des réunions de prière pour que Jésus chasse ces démons-là. Comme quoi on peut avoir des idées sectaires un petit peu. Hein. Mais j'ai révisé ma position, j'ai été guéri de cela. Oui. Oui, pour les disciples, c'était inacceptable, mais Jésus, au lieu de se scandaliser, lui, il approuve. Et nous voyons là, ici, que les disciples montrent bien peu d'amour. Qu'est-ce qui était le plus important? Je vous pose la question ce matin. Qu'est-ce qui était le plus important? Que cet homme annonce Jésus, qu'il prie pour les malades, ou le malade, ou qu'ils suivent plus particulièrement Jésus dans la troupe des disciples. Quelqu'un aurait-il une réponse? Que Dieu intervienne? Ben, il est intervenu, hein. Le plus important, c'est que cet homme soit guéri. Et que les histoires de clochers, ce sont des histoires de clochers. Et oui, il était important que cet homme soit guéri. Et il est dangereux de penser que nous sommes les seuls aptes à faire ce que Dieu attend. Cela, une fois de plus, nous conduit à l'orgueil, mais aussi au sectarisme. Et cela, en effet, s'oppose à l'amour et à la grâce. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit, et pourtant Paul n'était pas un tendre, n'était pas un mou. Il dit, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe. Waouh. Hein, Paul non plus n'était pas très content, quoi. Et pourtant, il se ravise et il dit, qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'en est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Alléluia. Partout où il y aura des hommes et des femmes sauvés, partout où il y aura des hommes et des femmes délivrés au nom de Jésus-Christ, alors gloire à Dieu. Parce que c'est Dieu qui le fait. Nous ne sommes pas juges, nous sommes simplement ouvriers avec Dieu. Dans la moisson, et c'est la moisson du Seigneur, ce n'est pas à nous de trier entre le bon grain et l'ivraie. Vous savez ce que Jésus avait dit? Quand les disciples ont dit, « Ah, on a semé du bon blé, oh, c'est formidable !» Et puis, d'un seul coup, quand ils retournent, la semence, elle a poussé. Ah ouais. Vous savez, au mois de septembre, j'ai tourné un peu le terrain, là où je suis, là. Et puis, j'ai semé de la pelouse, hein, de la graine, comme ça. J'ai dit, quand je reviendrai, ça va être beau, bien vert, tout ça. Et puis, en réalité, le gazon, il avait du mal, il est haut comme ça. Hein. Par contre, il y a des herbes, elles sont montées au-dessus, là, comme ça. Hein. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, je suis obligé d'attendre que le gazon, il pousse un peu plus. C'est le jour hein, qu'il faudra le tondre. On tondra tout en même temps. Quoi. C'est ce que Jésus nous dit. Parce que si j'avais arraché toute l'herbe, il ne restait plus de gazon, hein. Il fallait recommencer. Et je crois que c'est ça un peu ce qu'il nous dit. Voilà. C'est lui qui jugera, c'est Dieu qui jugera. Et Dieu nous invite à être tolérants. là aussi, notre intolérance est souvent un obstacle à l'évangélisation et fausse souvent l'image de Dieu. Et puis, je terminerai par un autre point. Versets 51 à 56, c'est leur manque de compassion. Et ça, il nous est dit, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route, entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela dire, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Vous vous souvenez que du temps de Jésus, il y avait du racisme et de la haine. Il y avait de la haine contre les Juifs, contre les Samaritains. Les Juifs méprisaient les Samaritains et les disciples se sentaient provoqués par ce refus et ils veulent se venger. Seigneur, fais descendre le feu du ciel, consume-les tous ces mécréants, tous ces mauvais. Ils ne sont pas comme nous, ils ne pensent pas comme nous. Fais descendre le feu du ciel, ils ne nous reçoivent pas. Alors Seigneur, détruis-les. Waouh! Eh oui, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Oui, voilà le résultat du racisme. Mais Jésus va renverser cela. Lui, il voit avant tout des hommes et des femmes. Il voit des hommes et des femmes qui ont besoin de Dieu. Et vous savez, l'époque de Jésus, aujourd'hui, n'a pas beaucoup changé. Il y aura toujours et il y a toujours des hommes et des femmes qui ont besoin de Dieu. Oui. Jésus, il est dans la compassion. Comme l'histoire du bon Samaritain. C'est évident que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui anime le cœur des disciples. Jésus leur enseigne que c'est pour ces hommes-là, pour ces femmes-là, qu'il est venu. Je ne suis pas seulement venu pour vous qui êtes ici, mais pour tous ceux qui sont dehors. Que Dieu aime, que Dieu veut sauver. Et il attend que nous sortions pour cela. Oui. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui des hommes qui rejettent, et des hommes et des femmes qui rejettent l'Évangile, parfois avec violence. Mais le Seigneur nous invite dans ce texte à répondre par la compassion. Nous aussi, parfois, nous voyons l'homme, l'autre comme un ennemi. Et nous aimerions bien que l'Évangile soit parfois une Kalachnikov qui vienne les détruire. Mais cela, ce n'est pas l'esprit de l'Évangile. Non. L'Évangile, c'est avant tout la compassion. L'Évangile, c'est le cœur de Dieu qui bat. C'est le pardon. C'est la grâce. Et le Seigneur nous incite à enlever de nos cœurs tout ce qui peut rejeter d'une manière ou d'une autre l'autre. Parce que l'autre, c'est celui et celle que Dieu aime au même titre que nous. Et dans ce chapitre 9 de Luc, Jésus nous redonne la vraie perspective de notre mission, être des témoins, des hommes et des femmes de l'Évangile. Alors, j'ai envie de dire pour terminer en conclusion, tous ces manques, Dieu est prêt à les combler. Pour que nous puissions répondre, avec l'aide de Dieu, aux besoins quotidiens de notre monde qui souffre, qui est sans espérance, qui est sans Dieu. Et il nous répète ce commandement dérangeant, donnez-leur vous-même à manger. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Elle est une lampe sur mon sentier. Elle m'éclaire, elle me conduit. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit, Seigneur. J'ai besoin de ta présence, car sans toi, je ne peux rien faire. Mais toi, tu peux tout, car tout est possible à celui qui croit. Seigneur, bénis-nous ensemble ce matin. Tu nous interpelles d'une manière ou d'une autre. Il y a eu sans doute un point plus particulier pour quelqu'un ce matin. Alors qu'il puisse repasser ces choses dans son cœur et puis obéir au Seigneur. Que ta grâce accompagne chacun au nom de Jésus-Christ. Amen.